Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage Didier. Bonjour Didier.
Bonjour Corinne, bonjour tout le monde.
Dans quelques jours, exactement le 17 février, oui. C'est la fête du printemps, Didier.
Exactement, et ça me plaît bien.
Et ça nous plaît bien, d'abord rien que le nom, la fête du printemps.
Tous les ans on le dit, mais moi ça me met toujours
ça
pareil.
Ça nous met en joie.
Voilà,
nous allons fêter le nouvel printemps. An lunaire
et donc,
2026.
Le retour des beaux jours.
Le retour des beaux jours avec un cheval de feu.
Ok.
C'est l'année du cheval de feu, c'est pas n'importe quoi le cheval de feu.
D'accord.
Alors, que nous réserve-t-il ce cheval de feu? Je vais tenter de tout vous dire.
Oui.
Avant que toi, Didier, tu nous racontes, oui. Hein, ça va un petit peu avec le thème aussi, l'histoire des frères Tang,
oui.
Sans qui aucune fête asiatique n'existerait dignement.
C'est ça. Et je raconterai mon attachement particulier avec ça, mais je fais un petit teaser, vous verrez plus tard.
Ok.
Alors, avant d'aller voir les frères Tang et parcourir les boutiques et les magasins des frères Tang, peut-être on va faire d'abord un bilan de l'année du serpent qui s'achève.
Oui, Corinne. Ça s'impose,
oui, voilà.
Didier. Ça s'impose. Alors, petit rappel sur ce que nous avait promis le serpent de bois,
oui.
Bleu.
Et alors,
oui. Alors, il nous avait annoncé une année faite d'introspection, de réflexion, de planification stratégique,
oui.
Accompagnée de transformation réfléchie, forcément.
D'accord, mais il y en a un qui ne l'a pas écouté.
Alors, c'était sans compter la folie et l'impulsivité de certains politiques ouais. Qui défient le droit international.
On ne lui a pas dit que c'était la
ministre. Ben voilà, je pense qu'il ne devait pas le savoir. En tout cas, ça ne les a pas touchés, cette année d'introspection
oui.
Et de réflexion. Alors donc, en cela, je dirais, rien de commun avec l'intelligence et la prudence du serpent dans leur comportement.
Oui.
Et dans ce qui est arrivé au monde cette année.
Tout à fait.
Par contre, une chose est certaine, le monde, ça c'était un autre aspect
oui.
Qu'on avait développé, la mue, le monde a quand même bien effectué sa mue.
Oui, c'est vrai, en
au travers
sorte.
De toutes les tensions internationales, des protestations populaires, des conflits prolongés et de l'avènement du populisme. Je dirais, le monde a changé.
Tout à fait.
Tout le monde est d'accord pour le dire.
C'est difficile d'être contre cette idée-là.
C'est ça. On ne peut qu'espérer que le cheval de feu nous emporte vers
oui.
Un monde plus serein, point de suspension.
D'accord.
Alors, petit rappel astrologique.
Oui.
Le système astrologique chinois et asiatique est lunaire hein, et ça repose sur un cycle sexagénaire, tous les 60 ans donc,
d'accord.
Qui combine les 12 animaux du zodiaque. Les 12 animaux, pardon,
oui.
Du zodiaque, ça fait beaucoup de Z. Et les 5 éléments, bois, feu, terre, métal et eau.
Oui.
Et l'année 2026 correspond à la combinaison feu et cheval qui
d'accord.
Ne survient que tous les 60 ans.
Eh oui.
Donc en fait, il n'y a pas beaucoup de cheval de feu. Il n'y a qu'une...
Oui, c'est assez rare.
C'est rare. Il n'y a pas... Là, ceux qui sont nés en 1906, ils sont décédés. Ceux qui vont naître en 2026 ne sont pas nés. Ça, je vais le redire. Donc, il n'y a que ceux qui sont nés en 1966.
D'accord, ok.
Voilà. Donc, c'est cheval de feu se dit huo ma en chinois. Ma, c'est cheval en chinois.
D'accord, ok. Et alors, justement, dis-moi Corinne, quelle importance a le cheval dans l'astrologie chinoise?
Il occupe une place singulière, un petit peu comme tous d'ailleurs.
Oui, oui, oui.
Mais quand même, c'est une place singulière, ils sont tous singuliers les 12 signes.
Oui.
Et plus largement dans l'imaginaire culturel asiatique. Alors cette année commencera officiellement, il faut quand même le préciser,
oui.
Donc je l'ai déjà dit, mais je le répète, le 17 février 2026.
D'accord.
Et s'achèvera le 5 février 2027. Et ce sera une année intense,
okay.
Car elle résulte de la rencontre entre un animal profondément symbolique,
oui.
Le cheval,
oui,
avec
sûr.
L'élément feu, porteur d'énergie et de passion.
Oui.
On imagine les deux quand
ça
même.
Ça galope.
Ça galope. Alors, okay. Cette combinaison est traditionnellement associée à des périodes de grands mouvements, de changements rapides, contrairement
oula.
À l'année du serpent, mais pourtant, il y en a eu aussi.
Oui,
hein.
Ça, ça me fait un peu peur. Là.
Mais c'était la mue.
Oui,
alors là, on n'est plus dans la mue, on est dans les grands mouvements, les changements rapides,
oui, mais...
tant sur le plan individuel que collectif.
D'accord. Ouais, sur le collectif, j'ai un peu peur là, du coup.
Oui, parce que ça peut pousser à des décisions irréversibles, car le feu amplifie la la dynamique et il faut le maîtriser le feu, ce qui n'est pas toujours facile. Didier.
J'imagine bien.
Si on peut maîtriser le cheval,
oui.
Un cheval de feu, c'est plus difficile à maîtriser qu'un cheval de bois.
J'entends bien, surtout s'il est au galop.
Exactement.
Voilà. Alors, en dehors de l'astrologie, parce que voilà, c'est une partie, quelle importance a le cheval dans la culture asiatique ?
Alors, en Chine, le cheval est l'un des animaux les plus mythiques depuis l'Antiquité.
Oui.
Il est indissociable de l'histoire impériale,
oui.
Militaire, il est très représenté partout. Et dans l'histoire aussi commerciale, bien sûr. Et je dirais de tous les pays asiatiques. Le cheval était le seul moyen de transport jusqu'à récemment.
Mm-hmm.
On peut dire jusqu'au début du XXe siècle.
C'est ça, vu l'étendue, oui.
Hein, et il y avait le bateau aussi, mais bon, le cheval était quand même un moyen de transport. Très, très utilisé, mmh. Et représentait donc la vitesse, la puissance et la capacité à relier les territoires éloignés.
D'accord.
Il était donc un instrument de conquête, mais aussi un symbole de réussite sociale.
Mmh.
C'est aussi un animal qu'incarne toujours, hein, la liberté, la persévérance, ils sont courageux les chevaux,
mmh.
Et associés aussi à l'idée de progrès constant et rapide.
D'accord.
Il existe une expression, enfin il y en a d'autres des expressions chinoises, mmh. Hein, il y en a une qui est particulièrement connue, c'est le succès arrive avec le cheval.
Okay.
Et elle illustre que le cheval est celui qui mène rapidement à l'atteinte des objectifs.
Mmh.
Alors ça peut nous effrayer effectivement aujourd'hui, mais contrairement à d'autres animaux du zodiaque, le cheval n'est ni sournois, ni calculateur.
Mmh.
Il est direct, franc et sincère,
mmh.
Animé par une énergie vitale pouvant malgré tout être difficile à contenir.
D'accord.
Ce qui veut dire aussi que tout pourrait nous échapper.
Oui, enfin, bon,
voilà.
J'espère que
il
sur
le ferait
le côté...
pas exprès.
Intelligent et franc, certains entendront le message, espérons.
Alors, voilà.
Et dans le reste de l'Asie, Corinne, le cheval, il est perçu différemment ?
Alors, la symbolique du cheval dépasse largement la Chine.
Je suppose.
En Asie centrale et en Mongolie, c'est un pilier fondamental de la culture, encore peut-être plus qu'en Chine.
Ouais.
Il est à la fois un compagnon de vie, un moyen de subsistance, un symbole spirituel, et il incarne la connexion entre l'homme et la nature et l'endurance face à des conditions extrêmes.
Bien sûr.
Le cavalier et sa monture, ils forment une unité sacrée, hein,
oui.
En Mongolie, Kazakhstan,
clairement.
Tout ça.
Oui.
Alors au Japon, le cheval a longtemps été considéré comme un messager des dieux,
ah oui.
Shintoïste.
D'accord.
Des chevaux étaient offerts au sanctuaire, hein, pour attirer la protection divine, et cette tradition subsiste aujourd'hui sous forme de plaque votive, appelée Emma, qui veut dire cheval en japonais,
ah, okay.
Et en coréen d'ailleurs,
ah, oui.
Représentant des chevaux. C'est des petites plaques où on écrit ses vœux,
okay.
Avec un cheval
très bien.
Dessus.
Okay.
Voilà.
Bon. Corinne, tu nous as prévenu de ce qui pourrait arriver sur le plan collectif avec le cheval de feu, mais qu'en est-il pour les personnes nées en 66 qui sont les seules,
oui.
Donc aujourd'hui, comme tu l'as dit tout à l'heure, à être de ceci, les autres n'étant pas encore nées, alors...
Et oui, donc il n'y a que les 66 qui sont chevaux de feu.
Mais c'est pas mon cas.
Chevaux de feu.
Voilà.
Alors sur le plan individuel, les personnes nées sous ce signe sont indépendantes et audacieuses,
oui.
Avec un fort esprit d'initiative.
D'accord,
Didier.
Ok.
Cette année, elles doivent se mettre en garde contre l'impulsivité, l'impatience et l'épuisement qui va avec tout ça.
Ok.
Alors les personnes nées sous le cheval de feu sont aussi décrites comme charismatiques, passionnées, avec une forte énergie intérieure,
mm-hmm.
Un goût prononcé pour la liberté. Une difficulté à supporter les contraintes. Alors, je ne sais pas si vous connaissez des gens nés en 1966.
Là, je réfléchis, je n'ai pas en tête.
Voilà, j'insiste, il n'y a qu'elles actuellement,
oui,
qui sont comme ça. Voilà, donc le cheval de feu a une réputation ambivalente au point d'influencer des comportements sociaux.
D'accord.
Et les choix de natalité, preuve de la force symbolique attribuée à ce signe.
Mm-hmm.
Bon, moi je propose qu'on écoute la chanson de l'année.
Oui.
De l'année du cheval de feu,
oui.
C'est Chinese New Year, song,
oui.
Donc
forcément.
L'année du cheval.
Voilà. 回荡迎春节福祝福随和春节的钟声敲响春节的钟声敲响烟花满天全家团圆庆祝新年 家家户户笑声起，福到家门，财源广进，新的一年好运连连。
Eh bien, vous êtes toujours sur
J'adore, merci. Ah
oui, voilà, 107.3, pardon. Et là, alors, bon, on a un esprit festif, là, emporté, oui. Exactement. Du coup, Corinne, oui. En quoi être du signe du cheval de feu influence les comportements sociaux?
Parce que, oui, tu nous as parlé des gens. Ça m'a bien étonnée, ça, en travaillant ce sujet très pointu.
Ok.
Alors, c'est simple, on a remarqué qu'en 1906 et en 1966,
oui.
En Asie,
oui.
La natalité avait baissé pendant ces années-là.
Ah, bah, c'est pas une bonne nouvelle.
Donc il y a eu des enquêtes sociologiques et il y a eu des liens qui ont été faits.
Ouais.
Et c'est volontaire, c'est les croyances culturelles qui sont profondément ancrées,
ouais.
Particulièrement au Japon.
D'accord.
Parce que le cheval de feu est associé à un caractère jugé excessif, indépendant, rebelle, difficile à contrôler.
D'accord.
Et on croyait, on met ça à l'imparfait,
oui.
Que les personnes nées sous ce signe, en particulier les femmes, apportaient le malheur. Donc c'était une malédiction de naître sous ce signe. Et que les femmes dominaient leur entourage et menaçaient l'harmonie familiale et particulièrement les couples. Les couples.
Tout le
voilà. Même. Donc ces années-là, 1906 et 1966, de nombreux couples ont volontairement retardé ou évité les naissances, ou alors s'ils savaient que c'était une fille.
Oui.
Voilà.
Oui, ils n'ont pas besoin de ça au Japon.
Afin de ne pas avoir d'enfants associés à ce signe.
D'accord.
Même les garçons, ils préféraient. Donc il y avait beaucoup moins d'enfants ces années-là.
Ok, on va pas. Ouais. Vu la natalité.
Donc
en ce moment,
on va voir ce qui se passe en 2026.
Ouais, bien sûr.
Alors. C'est concret et c'est sérieux ce que je vous dis là.
Oui, j'entends bien. Mm. Bon, eh bien, écoute, est-ce qu'il y a d'autres légendes que tu particulières sur
cheval? Oui, il y a des légendes. Ça, c'était pas une légende, la malédiction.
Non, enfin, oui, non, c'est vrai, tu as raison.
Bah oui, tu te rends compte.
Oui, ça me surprend un peu.
Oui. Alors, l'une des légendes les plus connues, c'est pas comme pour le dragon et le tigre, où là, il y a beaucoup d'enfants.
D'accord.
Alors, l'une des légendes les plus connues, c'est sûrement, et sûrement la plus fondamentale,
oui.
C'est celle du cheval-dragon. Alors, Long, c'est dragon.
Oui.
Donc cheval,
oui.
Qui serait apparu, donc ce fameux Longma, devant le sage Fuxi, sur les rives du fleuve jaune, émergeant des eaux avec des symboles faits de points noirs et blancs gravés sur son dos.
Okay.
Alors quelques mots sur Fuxi, qui était l'un des fondateurs de la civilisation chinoise, et il aurait vécu à l'aube de l'humanité, donc c'est même avant l'Antiquité.
Okay.
Et il aurait apporté aux hommes des savoirs essentiels comme la pêche, la chasse, le mariage, la musique.
Ah oui.
Et surtout les bases de la pensée taoïste. Très
important.
Et parce que Fuxi, en observant ces signes, il avait compris qu'ils représentaient l'équilibre fondamental de l'univers qui sont le yin et le yang, les points noirs et les points blancs. Et à partir de ces symboles, il aurait conçu les 8 trigrammes qui deviendront plus tard la base du Yi Qing, le livre des mutations qui est encore étudié aujourd'hui, Didier. Donc ce Fuxi et le Longma, très important.
Je vois ça.
Alors cette histoire donc symbolise la révélation divine de l'ordre cosmique, le fameux Tao.
Okay.
Alors donc avec Fuxi, on est passé du chaos à la connaissance, le cheval dragon étant un message sacré entre le ciel, la terre et les hommes.
Ah, j'entends bien.
Donc légende très importante.
J'ai bien aimé cette légende. Est-ce qu'il y en a d'autres, Corinne?
Alors, il y en a d'autres, mais on manque toujours de temps dans Asialogie. Donc, j'ajouterai l'histoire du général Guan Yu et celle de son cheval au temps des Trois Royaumes. Donc, ça, c'était il y a aussi fort longtemps.
D'accord.
Donc, le général Guan Yu, il est devenu presque une divinité, mais c'est un personnage historique qui a vraiment existé.
Okay.
Il est toujours représenté avec son célèbre cheval qui s'appelait Lièvre Rouge, qui était capable de parcourir 1000 lis en une journée, soit 500 km. maître.
Ah oui, tout de même.
Ouais. Alors, dans ce récit, le cheval partage le destin de son maître. C'est un compagnon loyal, presque doté d'une conscience morale. Mm-hmm. Bon, et puis, chez les peuples nomades de Mongolie et de Sibérie, le cheval est au cœur des pratiques chamaniques, il faut le savoir. Oui. Il est considéré comme un animal psychopompe, c'est-à-dire capable de transporter l'âme. Il y a des animaux capables de transporter l'âme entre le monde des morts et celui des vivants.
Alors là, ça m'était un coup.
Voilà. Et le tambour chamanique est parfois appelé le cheval du chaman, car il permet ce cheval spirituel.
D'accord. Okay.
Ce chemin spirituel.
Oui.
Enfin, c'est un cheval spirituel. Voilà, tout à fait. Donc, je dirais en résumé, le cheval, c'est une figure de passage entre la vie et la mort, entre l'ignorance et la connaissance, entre l'immobilité et l'action. Il incarne une force qui ne peut rester immobile, une impulsion vitale qui pousse à avancer. Ouais. C'est pourquoi, dans l'imaginaire asiatique, le cheval est à la fois admiré et redouté. Alors, pour info, Trump est du chien de feu.
Ah mince, il est chien, lui ?
Chien de feu.
D'accord.
Poutine, du dragon d'eau.
Oui.
Et Xi Jinping, du serpent d'eau.
Ok.
Bon, moi, je vous propose une histoire, une pause musicale dans les histoires, je vous en ai raconté beaucoup. Une pause musicale avec un jeune groupe chinois qui s'appelle GEM, et c'est Goodbye. Goodbye, l'année du serpent.
C'est ça.
C'était GEM, un jeune groupe chinois.
Sympathique, moi j'aime bien.
Avec sa chanson Goodbye. Ouais, moi aussi je trouve ça sympa.
Oui, c'est...
Bon Didier, pour le nouvel an lunaire, il faut aller faire des courses parce qu'on mange beaucoup. Il y a plein de choses, on mange, on boit, on fait la fête. Et c'est chez les frères Tang, et puis on décore sa maison aussi.
Oui, on fait beaucoup de choses chez les frères Tang.
Et donc c'est là-bas qu'on va trouver tout le nécessaire pour cette période... Très sympa.
Ouais.
Raconte-nous un peu l'histoire de leur entreprise qui fête ses 50 ans cette année.
Tout à fait, 50 ans, oui. Alors, avant de s'appeler Tang, les fondateurs de Frères Tang s'appelaient Bunmi et Bhutanavan.
Rien à voir.
Rien. Ils ont lancé leur entreprise à Paris peu après leur arrivée en France, dans les années 1970. Tous les deux sont nés au Laos, dans une famille d'origine chinoise. Bunmi avait étudié en France avant de fonder la société en 1976 avec son frère aîné. Ils ont d'abord créé une entreprise d'import-export de produits asiatiques avant d'ouvrir leur premier supermarché en 1981 au 48 Avenue d'Ivry dans le 13e arrondissement, le premier grand supermarché asiatique en France.
Eh oui. Alors pourquoi ils ont changé de nom, Didier ? Parce que Bhutanavan, et oui, effectivement, c'est laotien.
Oui, c'est après les bouleversements politiques en Indochine et à leur arrivée en France qu'ils vont changer de nom pour plusieurs raisons. Ils voulaient retrouver leur identité chinoise et Tang renvoie à la très ancienne dynastie Tang et plus largement à la civilisation chinoise. C'est un marqueur culturel fort et immédiatement reconnaissable. De plus,
c'est vrai.
Tang, C'est simple et lisible, rapidement, facile à prononcer, à mémoriser en français. Même moi, j'arrive à le prononcer sans problème, hein, donc c'est dire. Contrairement à Arata Navan, quoi, ça, c'est pas pareil. Hein.
Oui, Tang, ça sonne en
ça
plus.
Ça sonne, c'est ça. Mm. Symboliquement, pour une entreprise spécialisée dans les produits asiatiques, avoir un nom chinois identifiable facilite la confiance et l'identification communautaire dans le texte français.
Oui. Alors, quelle est leur histoire personnelle à Bunmi et à Bour, à Tang, enfin, Ratanavan,
voilà,
Tang?
C'est ça. Ils se sont exilés suite au conflit armé qui avait aussi touché le Laos. Et leur histoire s'inscrit dans le mouvement migratoire des Chinois du sud-est asiatique. Comme beaucoup, ils cherchaient à survivre et à améliorer leur sort, tout simplement, par l'exil.
Ouais.
Pour eux, la France et Paris étaient une destination possible avec la présence de communautés chinoises déjà installées dans les 13e arrondissement et le 19e arrondissement, ainsi qu'à Belleville.
Oui.
Alors, Bunmi, le plus jeune des frères, a appris le français auprès de religieuses catholiques du Laos, enfin au Laos.
Oui, parce que le Laos était sous protectorat français.
Mmh. Puis a poursuivi des études supérieures en France, à l'INSA, l'Institut national, oui, des sciences appliquées de Lyon, grâce à une bourse. Et c'est avec Bou, son frère aîné, et avec un capital d'environ 1 million de francs, qui fondera l'entreprise qui allait devenir l'une des plus grandes chaînes de supermarchés asiatiques en Europe. Hein. Alors, mais avant, dans leurs premières années en France, ils vont se concentrer sur l'import-export de produits alimentaires, comme la sauce soja, les galettes de riz, avant d'ouvrir des points de vente physiques. Hein. Leur premier supermarché va devenir rapidement un lieu emblématique pour la communauté asiatique et tous les amateurs de produits exotiques.
Oui, donc c'est vrai que la sauce soja, les galettes de riz, on n'en trouvait nulle part en France.
C'est ça.
C'est avant les frères Tang. On connaissait pas
non,
du tout.
Non, c'est là où tu m'as fait plaisir en abordant ce sujet.
Oui.
Je digresse un peu deux minutes là, même si on n'a pas beaucoup le temps. C'est que
peut-être
je...
pas deux minutes.
Non, c'est ça. Je vivais à Paris étudiant là-bas et j'avais un coloc qui était coréen et lui m'a emmené dans le premier magasin. C'était la fin des années 80 et j'ai découvert j'étais estomaqué quoi. J'étais ailleurs. Et
mais on est ailleurs.
Et j'en
vrai.
Ai encore un souvenir très très fort, très marqué de ce moment-là. Enfin voilà.
On y trouve des choses extraordinaires et je sais que moi ce que j'aime bien faire quand ça m'arrive d'y aller à Paris à l'été, ils font du jus de canne à sucre avec de la vraie canne à sucre.
Ah oui.
Ouais.
Alors. Bon. Revenons à leur histoire.
À leur histoire. Alors,
progressivement,
ils vont se développer rapidement, Didier.
Ah, oui, mais progressivement. En 1989, ils vont ouvrir un deuxième magasin près de la place d'Italie, puis des magasins dans d'autres villes de la région parisienne. Aujourd'hui, Frère Tang est reconnu non seulement comme un distributeur de produits asiatiques, mais aussi comme importateur, grossiste, restaurateur, avec Tang Gourmet et comme acteur culturel. Hein. Leur parcours relève d'une trajectoire socio-économique exemplaire, fondée sur l'observation des besoins, l'ancrage territorial et la gestion familiale, où la confiance interne remplace souvent les structures managériales classiques. Cette organisation a contribué, je pense, à la réussite économique de leur entreprise.
Alors pourquoi ont-ils fait ce choix professionnel? Parce qu'en fait, Bunmi, il avait fait une école d'ingénieur.
Oui, mais ils ont fait comme beaucoup de migrants chinois qui choisissaient des secteurs nécessitant peu de capital initial, mais une forte capacité de travail. La restauration, la confection textile, le petit commerce, les activités étaient des piliers économiques et la diaspora chinoise en France qui comptait peu sur les aides publiques et qui privilégiait l'auto-entreprise et l'entraide communautaire. Ah, c'est dans ce contexte que les frères Tang, avaient identifié un manque structurel, hein, tout simplement l'absence de supermarchés spécialisés dans des produits asiatiques et capables aussi de répondre à la fois aux besoins des particuliers puis à ceux des restaurateurs.
Et oui, c'est sûrement à cette époque-là qu'ont ouvert aussi beaucoup de restaurants chinois.
Je suppose, oui. Ah. Contrairement au commerce spécialisé destiné à une clientèle occidentale, curieuse d'exotisme, Tang Frère s'adressait d'abord à la communauté asiatique elle-même, en fait. Hein. Ce qui explique en partie son succès rapide de l'enseigne, qui répond toujours à des besoins concrets et quotidiens.
Hein. Alors aujourd'hui, ont-ils toujours autant de succès, Didier? On s'en doute un peu.
Eh bien, tu sais quoi,
la question.
Corinne, encore plus.
Ça m'étonne pas.
Et les frères Tang sont devenus un modèle d'intégration par l'économie et la culture, tout en conservant un lien fort avec leurs racines dans un marché européen en transformation. Leur entreprise dépasse désormais son public initial avec l'intérêt croissant des Français pour les cuisines asiatiques. Nous, les premiers, au Mans, on va dans un supermarché
ben oui, pour essayer de trouver
aussi.
Et puis, c'est vrai que ça a d'abord été chinois, après japonais. Oui. Et puis, les restaurants, là maintenant, c'est la cuisine coréenne qui est en plein essor.
Puis, il y a toute une génération aussi qui est très friande.
C'est ça.
On peut dire que les magasins Tang Frères sont devenus des lieux de médiation culturelle où ils se côtoient des clients asiatiques et non asiatiques. Et ils participent sans discours identitaire à la transformation de nos habitudes alimentaires.
C'est vrai.
Alors, malgré son succès, on constate que les frères Tang restent absents de la scène médiatique. Ils accordent très peu d'interviews et cultivent une culture de la discrétion, caractéristique des entreprises familiales chinoises. Cette invisibilité contrastant avec l'importance réelle en fait, de l'entreprise en France. Quoi. Pour résumer, 50 ans après sa création, Tang Frères est devenu une institution. Son nom est maintenant associé à une certaine idée du commerce populaire, accessible, efficace et qualitatif, avec des prix souvent imbattables.
Oui, c'est vrai, il y a des bonnes choses à des prix intéressants.
Oui.
Alors, qu'ont-ils prévu ? Parce que donc ils fêtent leurs 50
ans.
Et
voilà, ça se fête quand même. Hein.
Alors, en plus...
Oui.
Ouais.
Ouais.
50 ans.
Voilà, c'est ça. On peut imaginer que ce sera la fête dans leur magasin, ça.
Hein. Ah oui, d'autant plus,
Je serais curieux, oui.
Oui, oui.
J'ai pas trop scruté. D'autant plus que ça correspond au nouvel an lunaire.
Oui, ça, c'est quand même bien calculé, à mon avis.
Je pense que c'est commercial un petit peu aussi.
Ah, oui, oui, oui.
Il paraît qu'une célébration spéciale est prévue le 19 février avec un dîner organisé par un collectif culinaire dans leur magasin historique du 13e arrondissement de Paris, le fameux. Cela va donner à l'événement une dimension symbolique, forcément. Importante pour la communauté asiatique en France. Et moi, ça reste une de mes madeleines que ce magasin que Lee, mon ami coréen, que j'aimerais tant retrouver, m'avait fait découvrir il y a de ça, quelques années d'étudiant.
Bon, il m'a semblé voir passer sur les réseaux sociaux que le 1er février, il y a un super grand défilé pour le nouvel an lunaire.
D'accord.
Et c'est aux Champs-Élysées.
Aux Champs-Élysées ?
Oui, oui, carrément.
Ah, oui. Je suis déjà allée, mais c'était pas aux Champs-Élysées.
Là, il y aura, je pense, un très grand et beau défilé. Donc, le 1er février.
Okay.
Et puis, on va souhaiter bonne année à nos auditrices et auditeurs. Donc, en chinois, on dit « Xinyan Kuai Le ».
Alors, je te Chignan crois sur parole.
Quoi, ok. Voilà.
À tous.
Bon, c'est fini, Asialogie, les amis. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, nous réécouter le samedi matin, 9h30.
Oui.
Aussi en podcast, j'ai oublié le mercredi quand même, à 13h.
Ils ont plein de formules.
Ils ont plein de formules, et puis surtout sur toutes les plateformes, c'est ça qu'on dit ?
C'est ça, exactement.
De toute façon, on se retrouve jeudi prochain, toujours à midi, et toujours sur Radio Alpa, 107.3.
La belle semaine à vous.
À bientôt.
À la semaine prochaine.
Et bonne année du nouvel an. Bonne année du cheval de feu.
C'est parti.
お客様のご協力